Bonjour à tous et à toutes, on va pouvoir commencer. Merci d'être avec nous pour cette rencontre. Lionel Duroy, vous êtes écrivain, publié chez Mialet Barreau. On connaît beaucoup de vos textes, souvent autobiographiques. Et en cette rentrée littéraire, vous signez « Mes pas dans leurs ombres », une fiction en Roumanie, pays vers lequel on dit que la littérature française se tourne depuis quelque temps. On pourra en discuter. Merci d'être avec nous. Bonjour. Gaëlle Nohant, vous êtes romancière et vous avez reçu le Grand Prix RTL Lire pour le Bureau d'éclaircissement des destins que vous signez chez Grasset. On part avec vous en Allemagne et nous allons voyager. Mais comme chez Lionel Duroy, c'est vraiment l'histoire, comme on dit avec sa grande hache, qui est au cœur de votre récit. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ponts, beaucoup d'échos entre vos deux livres. Lionel Duroy, peut-être pour commencer, quand est né votre désir d'écrire sur la Roumanie ? Ce n'est pas le premier texte que vous écrivez sur ce pays. Qu'est-ce qui vous a amené, guidé vers ce territoire-là pour écrire de la littérature ?
Ça remonte, bonjour d'abord à tout le monde. Ça remonte presque à mon adolescence en fait. Moi, quand je suis né, l'Europe était séparée en deux par un mur. Je ne sais pas si, enfin, vous vous en souvenez sûrement pour les gens qui ont mon âge. C'était assez stupéfiant. Moi, mes premiers voyages avec l'un de mes frères, qui est devenu photographe plus tard, c'était à Berlin. Et on passait de l'autre côté, on passait en RDA pour la journée. Et la stupeur, c'était de voir que nous, on pouvait passer d'un côté, mais qu'au retour, les autres ne pouvaient pas venir chez nous, dans le camp communiste. Et c'était très triste, en fait. Et après, je suis retourné là-bas plein de fois. Je me suis même installé à l'université de Bucarest, à la cité universitaire où on m'avait donné une chambre. Il y avait quelque chose de très mystérieux dans l'Europe qu'on découvrait. Il y avait Auschwitz, bien sûr, mais il y avait ce monde clos derrière un mur où on ne pouvait pas vraiment parler avec les gens comme s'ils avaient peur de quelque chose. Et cependant, ils étaient très gentils, très accueillants. Et bon, et puis ensuite, je suis tombé sur Caput de Malaparte, qui, je pense, est le plus beau roman et le plus impressionnant sur la Seconde Guerre mondiale. Et voilà qui consacre une immense partie de son livre à raconter le pogrom de Yach. Yach, c'est devenu ma ville d'adoption. J'y suis tout le temps, j'y retourne la semaine prochaine. C'est à la frontière entre la Roumanie et la Moldavie. Il raconte ce pogrom à la fin juin 1941, où en 5 jours, la population civile orthodoxe a été exterminée à coups de barre de fer, 13 500 juifs qui étaient leurs voisins. Il faut imaginer le choc que c'est, et il faut ensuite se dire qu'on ne peut pas rester sans comprendre ce qui s'est passé. Comment vous pouvez, parce que vous êtes orthodoxe, assassiner à coups de barre de fer les pharmaciens qui habitent en face de chez vous parce qu'ils sont juifs ? Le père, la mère et la petite fille. Et j'ai travaillé pendant des mois sur ce qui s'est passé. Et j'ai écrit ensuite Eugénia, qui est un gros roman, qui est traduit en roumain, ce qui montre que les Roumains sont malgré tout pas négationnistes, mais prêts à recevoir tout ça. Et ma stupeur, en fait, quand je travaille en Roumanie, c'est de constater qu'après 40 années de communisme, tout a été effacé. Ce n'est pas seulement de la stupeur, c'est une infinie tristesse, en fait. Parce que vous tombez sur des fosses communes. Ils ne savent même pas qui est dedans. C'est marqué, je ne sais pas quoi, des citoyens soviétiques. Ce ne sont pas des citoyens soviétiques, ce sont des juifs qui ont été tués par l'armée roumaine. Et seulement les Roumains ne le savent pas, parce que le régime communiste était très antisémite. Et donc, et je finis, après Eugénia, j'ai travaillé là-dessus, sur l'Holocauste commis par l'armée roumaine, qui est ignorée de tout le monde. J'ai accumulé énormément de documentation et j'ai écrit Mes pas dans leurs ombres, qui est en fait un roman avec une narratrice qui est une jeune femme de 33 ans d'origine roumaine qui peu à peu découvre ça, voilà. Et probablement que ses grands-parents sont impliqués aussi, puisque tous les hommes roumains de l'âge de son grand-père ont forcément servi dans l'armée du maréchal Antonescu, qui était allié d'Hitler. Donc l'armée roumaine a de fait supprimé tous les juifs sur sa route en marchant sur Stalingrad. Et personne ne le sait. Et il n'y a que des tombes communes, des fosses communes anonymes. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit « Mes pas dans leurs ombres ».
On reviendra sur le personnage effectivement d'Adèle qui permet un peu l'enquête narrative aussi, l'enquête romanesque dans le livre. Comme on part un peu du point de départ, du lieu, vous c'est l'Allemagne, et c'est plus précisément un centre, un grand centre de documentation sur les persécutions nazies qui est au centre, qui est un peu l'arène principale du livre. Mais je dis bien arène principale parce qu'à partir de ça, vous allez tisser de nombreux fils géographiques, narratifs. Mais le point de départ, c'est ce lieu. Comment vous l'avez découvert et racontez-nous un petit peu ce que c'est que ce lieu.
Alors déjà, bonjour à tous. Comment j'ai découvert ce lieu? En fait, j'ai une amie qui m'a envoyé un jour un lien vers les archives d'Arolsen en Allemagne. Parce qu'ils avaient des petits documents de la déportation, des petites traces de la déportation du poète Robert Desnos, à qui j'avais consacré un roman il y a quelques années. Et à cette occasion, j'ai découvert ce centre d'archives, dont j'ignorais tout, qui jusqu'à très peu de temps s'appelait encore l'International Tracing Service, qui a été créé par les Alliés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire la lumière sur le destin des victimes du nazisme. Après la guerre, c'était aussi pour retrouver les disparus. Et puis au fil du temps et jusqu'à aujourd'hui, ce centre, qui est donc dans la petite ville de Bad Arolsen, dans la Hesse, en Allemagne, les gens qui travaillent dans ce centre reçoivent des dizaines de milliers de requêtes par an, de gens comme vous et moi qui demandent des renseignements sur quelqu'un de leur famille qui a été une victime du nazisme. C'est aujourd'hui le plus grand centre d'archives sur la persécution nazie, mais la spécificité, c'est que ces archives ont été vraiment réunies pour chercher des gens et que les gens qui travaillent là, alors jusqu'à récemment en tout cas, n'avaient pas une formation d'archiviste, mais plutôt une formation sur le tas d'enquêteurs des traces. Et donc c'est ça que j'ai trouvé très passionnant. Mais là, on va dire, je trouvais ça vraiment très intéressant. Mais ce qui a été le déclic pour un roman, c'est de découvrir que depuis la fin de l'année 2016, ils entreprennent des enquêtes très particulières pour restituer des petits objets modestes, très humbles, qui ont été retrouvés dans certains camps de concentration après la guerre. Ces petits objets sont là parce qu'ils sont modestes, parce que sinon, ils auraient été volés. Et c'est des objets comme on a tous dans nos vies. Ça peut être des alliances, des montres cassées.
Ce sont des objets intimes.
Des objets intimes, des objets qu'on emporterait si on était arrêté demain. Voilà, des photos, portefeuilles. Et voilà. Alors, en fait, il y a toutes sortes de petits objets comme ça. Et donc là, la particularité, c'est que les enquêteurs essayent de retrouver ce qui est arrivé au propriétaire de chaque objet. Mais ensuite de retrouver des descendants, puisque les propriétaires des objets sont morts aujourd'hui, et donc retrouver les descendants qui peuvent être disséminés dans le monde entier, qui ne savent pas que ces objets existent, et qui souvent, enfin parfois en tout cas, mais régulièrement, ne savent même pas qu'ils ont un déporté dans leur famille. Donc ils n'ont rien demandé. Moi, ce qui m'intéressait aussi, et que je trouvais aussi romanesque, c'est l'impact qu'a cet objet dans la vie d'un descendant aujourd'hui.
Ce qui vous relie, on parle depuis le début effectivement donc d'événements historiques, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ce qui est très fort dans vos livres, ce sont les traces en fait, que laisse la guerre, les traces dans les vies intimes. Là, ce que vous racontez, hein, ces petits objets qu'il faut transmettre ou ne pas transmettre, c'est une question que l'héroïne se pose, parce que ce sont aussi des objets qui sont porteurs de silence. J'ai l'impression que la question du silence, elle est aussi moteur dans votre écriture, à tous les deux. Est-ce qu'il faut colmater? Est-ce qu'il faut éclairer le silence?
Ce qui m'intéresse dans votre livre, c'est précisément que c'est l'histoire de l'Allemagne et que l'Allemagne, il y a eu Nuremberg. À partir du moment où il y a eu Nuremberg, il y a eu la possibilité pour le pays de condamner les criminels et il y a eu aussi la possibilité pour le pays de demander pardon et d'ouvrir un centre comme le centre Arolsen où finalement... On essaie de consoler. Bien sûr, c'est inconsolable. Hein. Après, je voudrais vous poser une question, si vous voulez bien. C'est inconsolable. Mais j'adore l'Allemagne. Donc, il y a quand même quelque chose chez les Allemands de la conscience de l'inconsolable et de vouloir essayer de faire quelque chose. Cela dit, il faudra quand même qu'on explique pourquoi ce centre dont vous parlez, Élise Carlin aussi a fait un livre là-dessus, je sais que vous vous êtes rencontrées toutes les deux, et les deux livres sont vraiment passionnants. Pourquoi ce centre ne s'est préoccupé de rendre ces objets si précieux sentimentalement, mais sans aucune valeur, aux descendants, seulement à partir de 2016 ou 2017, parce qu'il y a quand même là un scandale. Ce centre a coûté extrêmement cher et il n'a rien rendu pratiquement jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle directrice. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et j'ajoute juste pour compléter votre question que malheureusement, dans les pays où je travaille, c'est-à-dire un peu plus loin à l'est, les régimes communistes ont tout effacé. Donc le drame, quand vous êtes dans un pays comme la Roumanie, c'est qu'il n'y a pas eu Nuremberg. Voilà. Donc ils ont assassiné, fusillé à la va-vite le maréchal Antonescu, qui était l'allié d'Hitler, qui a emporté la Roumanie dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des nazis. Ils l'ont fusillé, et ça m'a beaucoup frappé, à la va-vite, comme finalement ils ont fait avec les Ceausescu. Et il y a un dessein, EIN, quand vous faites ça. Pourquoi vous ne faites pas des procès comme Nuremberg ? Nuremberg, ce sont des années de procès, parce qu'il y a le grand Nuremberg et les petits. Et on a essayé de faire passer en jugement tous les criminels de guerre allemands, au moins la Crète, au moins au-delà d'un certain grade militaire, etc. Si vous fusillez à la va-vite le responsable, comme ils ont fait avec Antonescu, je suis allé plusieurs fois sur sa tombe, elle est à côté de la prison, il y a une vague dalle en béton armé avec une croix. Vous évitez ça. Et ça ne va pas aujourd'hui en Europe. Voilà, ça ne va pas. À part parce que l'Europe est soucieuse que l'histoire de la Roumanie soit rétablie et racontée, et qu'il n'y a même pas le début du début dans les livres scolaires. Voilà. Pour le moment, le pogrom commis par l'armée roumaine, il est attribué à l'armée allemande. Et en fait, ce n'est pas possible historiquement. Lorsque vous travaillez sur les archives, vous voyez très bien que tous ces assassinats, 350 000 juifs au minimum, ont été commis par l'armée roumaine. Voilà. Je voulais dire ça, mais c'était une incidente un peu, parce qu'on voit là, à travers votre roman, que l'Allemagne s'est organisée d'une certaine façon, même si ça n'a pas très bien fonctionné. Mais que dans les pays où on a effacé l'histoire, il n'y a rien, quoi. Et je ne sais pas quand on viendra à dire ce qui s'est passé.
Ce qui fait justement que votre livre, votre roman, n'est pas du tout un manuel scolaire, c'est que vous donnez beaucoup d'épaisseur à la vie de tous ces personnages. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est ce qui en fait presque pas un road trip, mais quelque chose où vraiment vous nous emmenez de lieu en lieu, de vie en vie, donc il y a une profondeur chronologique. Et en même temps, cette question, quand même, j'insiste là-dessus, sur faut-il rendre ces objets ? Je trouve que c'est la question parfois que vous posez. Est-ce que parfois une vie qui ne sait pas, un des personnages notamment, qui ne sait pas forcément que cet objet existe, est-ce qu'il faut vraiment lui restituer ? Vous êtes aussi face à cette question, en fait. Colmater les silences, jusqu'où ? C'est une question que je trouve intéressante.
Oui, absolument. En fait, mon héroïne, Irène, elle est française. Elle est amenée, via ses enquêtes, à faire irruption dans la vie des gens aujourd'hui, avec une histoire qui porte des silences, qui porte des secrets, y compris des secrets de famille. Et ces secrets, d'entrée de jeu, sont violents. Enfin, puisque de toute façon, ces objets, leur histoire passe forcément par un camp de concentration. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une dimension brutale qui vient avec cette histoire. Et pour autant, Irène, que j'ai appelée Irène parce que ça veut dire la paix en grec, et que je voulais que ça soit un peu son programme quand même, d'apporter une forme d'apaisement peut-être, quand elle le peut, dans la vie des descendants par rapport à cette histoire. Irène, elle est résolument du côté de la vie et elle est résolument du côté d'une forme de réparation de liens qui ont été brisés. Ce que la guerre a fait, cette guerre-là a fait, ce que font les guerres modernes souvent, elle brise les filiations. Il y a beaucoup de gens qui ont un trou béant à la place d'un arbre généalogique aujourd'hui, avec plein de questions, avec des silences, etc. Et donc... Elle vient raccommoder quelques fils d'une tapisserie déchirée. Alors on peut dire, c'est peut-être un peu dérisoire, Mais en fait, ces fils sont d'autant plus précieux que la tapisserie est déchirée. Et en définitive, c'est quelque chose qui... voilà. Mais donc, elle est résolument du côté de la vie. Et à travers ces objets qu'on rend, il y a un peu... Il y a aussi... c'est comme si, symboliquement, on ramenait le disparu qui reprenait sa place parmi les vivants. Et moi, ça m'a beaucoup frappée. Alors, ça m'a frappée en écrivant ce roman, mais ça m'a frappée parce que j'ai rencontré pour ce livre beaucoup de gens, y compris des descendants à qui on avait rendu des objets. Et donc, je vois bien que ça... Par exemple, il y a un certain nombre de ces descendants, les disparus, quand ils sont morts pendant la guerre, souvent, on n'a pas de corps. Et donc, l'objet devient, en quelque sorte, la métaphore du corps. Et d'ailleurs, parfois, les descendants, ça arrive qu'ils fassent carrément mouler l'objet dans la tombe familiale. C'est une manière de dire, il est là, il est revenu. Mais d'une manière générale, qu'on le fasse ça ou pas, la personne revient dans la vie des vivants. Et elle ne revient pas seulement à travers le côté douloureux, à travers sa mort, en quelque sorte. Elle revient aussi à travers ce qu'on ramène de sa vie, à travers ça. Et donc, c'est pour ça que ça me paraît important. Mais évidemment, il y a plein de dilemmes. Il y a plein de dilemmes. Ça arrive très souvent qu'à travers un objet, des descendants découvrent que leur grand-père ou leur arrière-grand-oncle a eu une autre vie, qu'il a eu une femme, des enfants qui sont morts pendant la guerre et dont il n'a jamais parlé. Donc ça, c'est pas facile de ramener ça dans une famille. Et en même temps, moi, je sais que pour ce roman, j'ai non seulement lu à peu près 200 livres d'historiens et de témoignages pour qu'on puisse apprendre que des choses vraies.
Donc c'est extrêmement nourri historiquement.
Voilà, parce que ça me paraissait très, très important. Mais j'ai rencontré une archiviste française de ce centre d'archives d'Arolsen. Et elle, je sais que ce qu'elle préfère faire... Ce qu'elle préfère, c'est quand elle arrive justement à relier des vivants. Ce qui est rare, mais qui arrive. Et parfois, c'est aussi relier une personne, un descendant, avec des membres de sa famille dont il ignorait tout. Donc ça peut être justement une autre vie dont il apprend l'existence et qui lui permet de découvrir qu'il a aussi bien de la famille en Pologne ou de la famille... voilà. Et elle dit que la plupart du temps, ça se passe plutôt bien parce que elle intervient sur des gens qui sont la troisième ou la quatrième génération. C'est pas la même chose d'arriver dans la vie du fils d'un déporté et de lui dire, voilà, votre père a eu d'autres enfants, une autre vie. C'est sans doute beaucoup plus violent, parce que plus proche, que d'arriver dans la vie de ses petits-enfants ou de ses arrière-petits-enfants. Là, il y a quand même un peu plus de distance et une capacité peut-être supérieure à affronter ce passé, et même parfois, et souvent, à avoir envie de se relier.
Vous parlez donc de votre personnage principal en disant qu'elle apaise. Elle a une forme effectivement de vocation à apaiser les vivants. Vous, votre héroïne, Adèle, elle est pleine de colère au début du livre, parce que je trouve qu'il y a un petit côté aussi roman d'initiation. Cette jeune femme, je vais vous laisser en parler, hein, mais cette jeune femme d'origine roumaine, qui ne connaît pas du tout son pays d'origine, qui vit en France, va se retrouver un peu catapultée, parce qu'elle est envoyée par un journal, elle est journaliste, par son journal, pour aller couvrir des manifestations. Et en fait, de ce premier voyage, elle y va un peu en râlant, et en fait, elle va commencer à faire des premières découvertes. Et à travers les découvertes de ce pays dont elle a été coupée, vous parliez effectivement de rupture de filiation, c'est vraiment au cœur de votre héroïne. Et en fait, de découverte en découverte, elle va se rencontrer. Je trouve que ça donne un côté un peu roman initiatique aussi, à travers ce personnage de fiction.
Oui. Et c'est bien qu'on parle un peu de ce personnage, Adèle, parce que je reçois des lettres à la limite de l'insulte sur cette création. Et donc, je voudrais en dire deux mots, parce que je revendique beaucoup cette jeune femme qui a 33 ans, qui est donc... née à Paris en 1985 d'un couple de Roumains qui a fui la Roumanie sous Ceausescu 2 ans auparavant, en 1983. Elle est fille unique d'un couple pauvre, comme sont les Roumains, surtout quand ils arrivent dans un pays comme le nôtre. Donc elle a grandi dans un appartement assez sordide près de la gare de Lyon. Elle n'a pas été à l'école alsacienne ni à Notre-Dame-Sainte-Marie-de-Neuilly. Hein. Et donc, elle est très voyou. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur le malheur des immigrés en France, que je trouve ça dur de grandir en France quand on ne parle pas la langue, qu'on a un peu honte de ses parents parce qu'ils sont pauvres, qu'ils parlent le français avec un accent à couper au couteau, etc. Il est évident que cette jeune femme est assez voyou et assez mal élevée. Et ça m'intéresse qu'elle soit mal élevée. Donc j'ai reçu des lettres de gens que j'aime beaucoup par ailleurs, qui me disent comment vous pouvez parler de, faire parler de l'Holocauste à une personne aussi mal élevée. Ben, parce qu'elle est mal élevée, parce que précisément elle est d'origine de l'immigration et qu'elle a eu une enfance difficile et compliquée. Et ça m'intéresse aussi, c'était un enjeu du livre. Quand on est mal élevé, on est assez culotté. Je suis assez mal élevé. Je suis issu d'une famille de 10 enfants sans un rond, donc je sais ce que c'est d'avoir été déscolarisé longtemps, d'avoir vécu à la bougie et d'avoir été expulsé à plusieurs reprises. Ça donne un certain caractère. Et moi aussi, j'ai travaillé de cette façon-là. Et je pense qu'il faut un certain caractère pour faire ce qu'elle va faire. De partir dans ce pays, la Roumanie, où personne ne sait ce qui s'est passé, où les gens vont très mal, parce que quand vous êtes avec la France en 14-18, puis avec Hitler en 39-45, puis avec Staline à partir de 49, et puis enfin que vous sortez de Ceausescu et que vous assassinez le couple Ceausescu dans des conditions indignes, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête. J'adore les Roumains à cause de ça. C'est des gens qui ont une histoire compliquée. Les Anglais, ils citent Churchill quand ils parlent de leur peuple et ça les rend fiers. Nous, on cite De Gaulle. Mais eux, ils n'ont personne à citer. Parce qu'Antonescu, le maréchal autoproclamé maréchal, est un criminel de guerre, en fait. Que Ceausescu ne vaut pas mieux, Staline non plus, je ne vous fais pas de dessin. Et que donc, c'est compliqué. Quand ils me parlent du héros qu'ils ont en France... En Roumanie, chez eux, ils citent un général français, le général Berthelot, qui a organisé l'armée roumaine en 1916 pour permettre à la France de gagner la guerre en 18. Et donc, le général Berthelot est vénéré à Iași. Sa maison est en cours de restauration. Mais quel héros roumain ils vont citer ? Donc, ce sont des gens comme ça. Donc, j'ai créé Adèle, et je l'aime beaucoup, cette femme. J'écris nuit et jour tellement elle m'intéressait, en fait, parce que je la suis dans cette enquête. Et je pense qu'il faut être assez culotté en Roumanie aujourd'hui, puis en Ukraine, où je me suis installé ensuite pour continuer cette enquête, pour soulever des montagnes comme ça, pour comprendre ce qui s'est passé et oser le dire. Donc, c'est vrai que j'ai écrit un livre un peu... dur, sans doute assez dur, quoi. C'est pas comme ça, normalement, qu'on parle de la Shoah. Voilà. Mais par exemple, j'aime tellement Shoah, le film, et je me souviens comme il est voyou quand il interroge les gens en Pologne, Claude Lanzmann. J'adore comment il fait Claude Lanzmann. Vous ne vous souvenez pas, peut-être, c'est un film qui dure 9 heures, mais qui est un chef-d'œuvre du XXe siècle. À un moment, il est avec une traductrice, il interroge les Polonais qui ont très bien vu ce qui s'est passé à Auschwitz. Et puis, il y a deux Polonais qui parlent entre eux et qui disent « ils parlaient le juif ». Et la traductrice de Claude Lanzmann, elle traduit « ils parlaient l'hébreu ». Et lui, qui comprend très bien, il dit « non, non, tu peux me traduire ce qu'ils ont dit ?» Il parlait le juif, c'est pas pareil que de dire il parlait l'hébreu, etc., etc. Et Claude Lanzmann, quand il travaille, quand il tourne Shoah, il est très voyou. Et je pense qu'il faut l'être, en fait. Il faut être un peu brutal quand vous travaillez dans des zones comme ça. Sans ça, on vous raconte n'importe quoi. J'étais à Mogilev, là où il y avait le ghetto. Edgar Isselrat est le seul écrivain, parce qu'il a vécu 3 ans dans le ghetto, entre l'âge de 13 ans et 16 ans, à avoir écrit « Nuit », qui est un chef-d'œuvre absolu, dans lequel il raconte sa vie à l'intérieur du ghetto de Mogilev. Et moi, c'est en Ukraine. Et quand je suis à Mogilev aujourd'hui, y compris le maire me raconte qu'il n'y a jamais eu de juifs dans la ville. Vous voyez, vous ne pouvez pas travailler comme ça, quoi. Et ensuite, je passe des jours à rétablir le plan du ghetto à l'intérieur de la ville de Moguilev, qui est caché derrière des baraques en tôle ondulée qui vendent des tomates et des carottes. Et on retrouve même les maisons derrière. Mais vous demandez dans la rue à des gens de 30 ans, mais il n'y avait pas des juifs ici à Moguilev ? Ah non, il n'y a jamais eu de juifs ici, non. Mais il y a eu la moitié de juifs de la population de Moguilev, ils étaient juifs. Ils ont tous été exterminés. Et c'est pareil à Tchernovitch. Et Appelfeld, qui a raconté sa vie à Tchernovitch, et ensuite la marche de la mort jusqu'au camp de Transnistrie, il n'est pas traduit, ni en Ukraine, ni en Moldavie, ni en Roumanie. Ici, tout le monde connaît Appelfeld. Voilà, donc je pense que pour travailler, il faut être en effet comme est mon Adèle, l'héroïne de mon roman.
Pour revenir justement du
que
coup,
je revendique.
Ouais, tout à fait. Mais pour revenir du coup à vos deux romans, ce que je trouve aussi intéressant, encore une fois, qui fait écho, c'est dans la fabrique même de l'écriture, comme c'est un peu la forme de l'enquête, vos deux textes. Il y a donc ces héroïnes qui nous mènent à d'autres personnages en permanence. Et donc vous tissez beaucoup de matériaux dans l'écriture, des extraits de lettres, d'enregistrements, de beaucoup de dialogues évidemment, beaucoup. Ce sont vraiment des livres qui avancent avec le dialogue, des extraits aussi de romans, puisque la littérature a une place importante dans votre texte. Et ça, je trouve aussi que c'est très intéressant d'un point de vue littéraire, cette hybridité. Comment vous vous y êtes pris? Est-ce que c'était déjà important pour vous? Est-ce que c'était un moyen de donner la parole et de multiplier les voix à l'intérieur du livre?
C'est ce que je voulais vous demander, donc c'est intéressant. Oui. Comment vous faites? Parce qu'il y a des lettres dans votre livre, dans votre roman, et je me suis demandé si c'était des lettres que vous aviez réussi à récupérer dans le centre allemand ou ailleurs, ou si vous aviez réécrit des lettres à partir de documentation.
Alors, j'ai vraiment choisi de créer des personnages fictifs, mais qui sont toujours appuyés sur la réalité historique et nourris de beaucoup de documentation. Donc en fait, par exemple, je suis appuyée beaucoup sur les archives du centre d'Arolsen. Ils ont toutes sortes d'archives, ils ont des archives nazies, c'est-à-dire vraiment qui sont des traces de la bureaucratie nazie, des archives des camps, des choses comme ça, que j'ai beaucoup étudiées pour en créer de fictives, mais qui sonnent justes. Ils ont aussi, par exemple, des questionnaires. Ils ont des archives qui ont été créées par les Alliés à la libération des camps. La plupart des gens qu'on a libérés dans les camps de concentration, on les a mis ensuite dans des camps de personnes déplacées où ils sont restés souvent des années en attendant soit d'être rapatriés chez eux, soit d'émigrer, etc. Et dans ce temps très particulier, on leur fait remplir des questionnaires très détaillés pour plusieurs choses. Déjà pour être sûr qu'on a affaire à des victimes du nazisme et non pas à des criminels de guerre, parce qu'il y en avait qui essayaient de passer entre les mailles du filet et qui se retrouvaient dans les mêmes endroits pour émigrer, pour échapper à la justice. Donc pour ça, il faut remplir des questionnaires très détaillés où, par exemple, où étiez-vous les 12 dernières années? Est-ce qu'il reste des gens en vie dans votre famille? Est-ce que vous savez où ils sont? Est-ce que vous voulez retourner dans votre pays? Ou est-ce que vous voulez émigrer? Est-ce que vous avez de l'argent, etc., d'où vous venez, etc. C'est une matière incroyable sur le plan historique, je veux dire. Et moi, j'ai parcouru, des centaines de ces questionnaires. Et du coup, j'utilise cette matière dans mon roman. Il y a deux de ces questionnaires, mais donc pour le coup que j'ai imaginé à partir des vrais et en fonction du parcours des déportés. Moi, je suis partie dans mon roman de décider de m'intéresser à deux camps.
Précisément.
Le camp de Ravensbrück d'un côté et le camp de Treblinka de l'autre, parce que ce sont des camps très différents l'un de l'autre, dans leur finalité, dans leur histoire, dans souvent même leur population, et que j'ai pu constater en discutant avec les gens, en posant des questions, que souvent les gens ne savaient pas très bien ce qu'était Treblinka, par exemple. À quoi servait Treblinka ? Treblinka, c'est un centre de mise à mort. Ça n'a rien à voir avec le camp de Ravensbrück. C'est pas un camp où on met les gens pour les faire travailler et mourir d'épuisement. C'est un camp où on les amène pour les tuer, vraiment, pour les tuer. C'est une sorte d'abattoir qui est censé durer un an et en un an et ensuite être fermé et détruit et détruites les traces du camp. Pour que vraiment ces gens aient disparu entièrement. Et si aujourd'hui on sait ce qui s'est passé à Treblinka, c'est parce que parmi ces gens condamnés à mort, il y en a un certain nombre qui ont réussi à se révolter et à s'enfuir. Voilà. Sinon, on ne saurait rien. Donc il y avait Treblinka d'un côté, Ravensbrück de l'autre, qui est un camp de concentration pour les femmes. Et ensuite, je suis partie... Quand j'ai commencé à lire beaucoup sur ces camps, les objets sont venus d'abord, et puis ensuite sont venus les déportés. J'ai eu une déportée donc, qui est très importante dans mon roman, qui s'appelle Vita, qui est polonaise, et qui est née quand j'ai découvert qu'à Ravensbrück, il y avait des déportés qui adoptaient des orphelins. Ces orphelins étaient pour la plupart juifs ou tziganes. Ils appelaient ces déportés leur maman du camp. Et il y a comme ça une petite fille juive qui s'appelait Lily, qui a survécu, qui, une fois vieille dame, raconte qu'elle a eu plusieurs mamans du camp parce qu'elle mourait. Et donc une autre maman du camp prenait le relais. Et elle dit, une fois vieille, dans mon cœur, il y a ma mère et mes mamans du camp. Voilà. Et donc, c'est là que le personnage de Vita est arrivé. C'est quelqu'un qui fait ça, qui prend sous sa protection un enfant juif, sachant que ça lui fait courir beaucoup de risques. Si dans un camp, vous avez un enfant dans votre protection, alors votre espérance de vie chute drastiquement parce que l'espérance de vie de cet enfant est très faible. Et donc, vous risquez de mourir parce que vous êtes avec cet enfant, alors que sans, vous avez plus de chances peut-être de survivre. Donc voilà, elle fait ce choix. Ça, c'est Vita. Et puis, par exemple, un autre personnage est venu, lui, de quand j'ai lu sur Treblinka, il y avait des Juifs qui étaient gardés en sursis pendant quelques temps. Et donc, par exemple... Il triait les affaires qui étaient volées aux gens qui étaient en train d'être exterminés. C'était des piles énormes d'objets, et de vêtements, etc., qui faisaient la taille d'un immeuble de 2 étages à peu près, d'après les témoignages. Et donc, cet homme raconte qu'un jour, ces tas d'objets qui n'en finissaient pas, qui ne diminuaient jamais, à l'hiver 42-43, diminuent. Parce que il y a plus de convois. Il n'y a plus de convoi qui arrive à Treblinka. Et malheureusement, et donc, eux, leur vie, leur survie est liée à ces convois. Et donc, il dit, j'ai réalisé que ces objets, c'était ma vie. C'est un survivant tchèque. Et que le jour où il n'y aurait plus d'objets, pourquoi on nous garderait en vie ? On ne nous garderait pas en vie. Et à ce moment-là, j'ai vu tout à coup une silhouette prendre un objet sur un tas. Comme un talisman. Voilà. Et donc, ce personnage qui s'appelle Lazare est né à ce moment-là. Donc, après, les traces dans mon roman, il y a plein d'archives différentes et de traces. Certaines sont vraiment à peine adaptées de vraies archives. Il y a une lettre d'une maman polonaise au commandant du camp de Buchenwald. Cette dame qui a une petite exploitation agricole écrit à ce commandant du camp de Buchenwald pour qu'il lui rende son garçon. Un jeune garçon qui a été envoyé à Buchenwald. Et elle dit, je ne peux pas travailler dans ma ferme parce que je ne peux pas travailler toute seule. Il faut mon fils. Et mon fils est dans votre camp. S'il vous plaît, rendez-le-moi. Alors évidemment, c'est naïf de penser que le commandant du camp de Buchenwald peut, une seconde, écouter ça et lui renvoyer son garçon qui va mourir à Buchenwald. Mais j'ai trouvé cette lettre extrêmement poignante. Et aussi... assez fascinant qu'elle soit dans les archives. C'est-à-dire, ils l'ont gardée, cette lettre, quand même. Voilà. Et je m'en suis servie. Je l'ai à peine transformée pour la mêler à une des histoires de mon roman sur un jeune garçon, justement. Voilà. J'ai utilisé, entre les archives, elles sont souvent... En fait, souvent, les gens qui lisent mon roman, ils ne savent pas à quel point à quel point c'est vraiment appuyé sur l'histoire à chaque instant.
Ça se sent. Enfin, ça se sent. Parce que c'est pas de l'invention pure, je veux dire.
Non,
à partir
jamais.
De ça, vous construisez, vous tissez et vous en faites une œuvre romanesque. Mais on sent vraiment, je trouve, tous les étages de recherche et de documentation. Ça se sent vraiment.
Et juste une petite chose par rapport à une archive très particulière du livre. Dans le livre, il y a une rédaction écrite par une adolescente juive qui s'appelle Eva, dans le ghetto de Varsovie. Et cette lettre, c'est à peu près un mois de travail. Elle fait une page. Et c'est un mois de travail parce que j'ai lu d'abord énormément de choses sur le ghetto de Varsovie, et puis des témoignages, etc. Et puis ensuite, je me suis dit, c'est bon, je vais écrire la rédaction. Elle fait partie des archives secrètes du ghetto de Varsovie qui existent. Hein, ces archives s'appellent les archives Ringelblum, où il y a des textes d'enfants. Des vrais textes d'enfants. Et donc, j'écris ce texte, et puis ça ne marche pas, ça ne sonne pas juste. Je me souviens, je passe 2 ou 3 jours, ça rate, je sens que je n'y suis pas. Et je me dis, peut-être c'est trop difficile pour moi. Peut-être que ça, je ne peux pas le faire. Donc, j'en suis navrée, mais il vaut mieux que je renonce plutôt que d'avoir une seule page qui sonne faux. Voilà. Et qui ne sera pas fidèle à ce que je veux mettre dans ce livre. Et donc, je vais me coucher et une heure après, je me réveille et je me souviens que dans les 200 livres que j'ai lus pour écrire ce livre, il y a un livre que je n'ai pas encore lu et qui était une compilation de ces archives Ringelblum sur les enfants et les éducateurs du ghetto de Varsovie. Je vais chercher, c'est assez épais, et je le lis dans la nuit. C'est une des lectures les plus éprouvantes que j'ai faites pour ce roman parce que les textes d'enfants sont terribles. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu en utiliser de vrai parce que ils sont tellement durs, en fait. Puis, parce que, pour le coup, dans ce roman, moi, mon projecteur n'est pas sur l'horreur. Il est un peu en bordure. Donc, voilà. Ensuite, il y a les textes des éducateurs. Et ça, c'est à la fois terrible et absolument magnifique. Pourquoi ? Parce que ces éducateurs, ils comprennent très vite que leur but, c'est de sauver des enfants, mais très vite, ils comprennent qu'ils ne pourront pas en sauver même un seul. Voilà, qu'ils vont tous mourir, ces gosses, entre leurs mains, parce qu'ils n'ont rien à manger, parce que y a les déportations, etc. Et donc, à ce moment-là, leur but, c'est quoi ? C'est d'essayer de les garder le plus longtemps possible enfants, un peu enfants. Et donc, comment on fait ça ? Eh bien, avec des textes, avec des chansons, avec des poèmes. Quels textes on va leur faire lire ? Quel spectacle de musique ils vont jouer ? Faire pousser des graines de haricots dans des pots, parce que dans le ghetto de Varsovie, il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de parc. Et ces gamins, ils ne savent même pas à quoi ressemble une fleur. Etc., etc. Faire des spectacles, les faire rire. Leur donner, puisqu'on n'a rien à leur donner à manger, leur donner autre chose à manger, qui est de la culture, finalement, de la vie, de la joie. Et la plupart, et tous ces éducateurs sont allés mourir avec les enfants à la fin de cette histoire. Et quand, donc c'est bouleversant, et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, vous voyez. Et donc, le lendemain, j'ai écrit la page. Et là, je savais que c'était bon et je n'ai pas eu à enlever une virgule de ce texte. Et il a été relu par plein de gens et personne n'a enlevé une virgule. Et en fait, c'était le chemin qu'il fallait faire vers ce personnage et vers cette... voilà. Et je peux dire ça d'à peu près tous les personnages de ce roman.
Il nous reste vraiment quelques minutes pour conclure. Je terminerai avec une phrase qui est extraite de votre livre et qui, pour moi, résume assez bien... Enfin, est au cœur de vos deux projets, vous dites « Quelquefois, en cherchant les morts, on trouve des vivants ». C'est une très belle phrase de votre livre. Peut-être Lionel Duroy, si vous voulez rebondir pour qu'on termine avec vous sur cette phrase.
Oui, non, c'est très intéressant ce que vous avez dit. C'est vrai que j'utilise beaucoup, un peu comme vous, d'autres écrivains qui ont déjà écrit là-dessus et que ça m'a toujours intéressé, maintenant qu'ils sont morts, d'essayer de prolonger ce qu'ils ont voulu nous raconter. Voilà. En allant voir où ils vivaient, où ils ont été internés, et en prolongeant un peu leur texte. Merci.
Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez...
Merci.
Vous pouvez les retrouver à leur stand pour signer des livres, si vous le souhaitez.